Grainville PM. Opinion.
On a fait le ménage dans les finances publiques. Là, on a 7 milliards de surplus. Mais ça a des conséquences sur la collectivité.
Voici Fred Savard.
Salut Daniel!
Salut Fred.
Ça va bien? T'as pas sorti tes chemises en lin?
J'ai des camisoles en lin, mais tu veux plus me voir là-dedans.
Tu mets plus ça, toi, des camisoles?
Ben, quand il fait chaud, qu'est-ce que tu penses?
Non, mais dans les lieux publics, là, devant les gens?
Devant les gens?
Oui.
Très peu. Oui, non, j'ai donné un show dernièrement comme ça, mais...
J'ai sorti ma chemise, mais ma chemise de lin. Ça, c'est vraiment un signe que la canicule est vraiment pognée. D'ailleurs, je remercie tous les médias de nous avertir de boire de l'eau. On n'aurait pas pensé à ça pendant
la canicule. C'est vraiment une chance qu'ils y ont pensé, moi.
Comment va ta santé mentale, Daniel?
Écoute, je pense que je suis un petit peu schizophrène, mais moi aussi.
Donc, je calcule que ça va bien.
Oui.
C'était dans l'actualité. J'ai envie qu'on parle de ça. Je sais que, bon, c'est des sujets qui sont pas jojo. Ils s'enlignent avec ce que tu parlais avant les nouvelles. Mais je trouve ça intéressant parce que dans l'actualité, ce matin, il y avait cette histoire du policier. Yannick, je crois qu'il s'appelle Yannick Campagna du service de police de la Ville de Québec.
Mm-hmm.
Qui a dénoncé, en fait, qui a pété sa coche, il paraît, dans un hôpital auprès d'infirmiers. Et là, il y a eu une plainte, il a été, il a dû témoigner devant le comité déontologique. Là, il disait, en fait, il dénonce les portes tournantes en santé mentale. Puis je trouvais ça intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui, parce qu'habituellement, on en parle juste quand il y a la campagne Belle pour la cause. Puis, tu sais, ça fait quelques fois que je parle de filet social ici dans cette chronique-là, puis je trouve ça important qu'on le rappelle. Que le filet social est important, oui, mais qu'il inclut rarement la santé mentale. Puis c'est quelque chose de tabou, on va se le dire, encore aujourd'hui. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Il y a des personnalités connues, des fois moins connues, mais sur les médias sociaux...
Mais ça reste le parent pauvre
de la santé.
Moi, je veux te garantir une affaire, c'est que les télétons ne vont pas tirer leurs images là-dedans.
Non.
C'est pas là qu'ils vont filmer.
Tout à fait. Cela dit, c'est parce qu'il y a une raison à ça aussi, c'est que c'est diffus aussi, la maladie mentale, c'est quelque chose qui est souvent caché, qui n'est pas écrit, à part, on parlait d'itinérance tantôt, parce que je pense que c'est un peu ça, le policier, c'est que lui, il dénonçait que sur son travail, il revoit souvent des gens que lui-même a amenés dans les hôpitaux. Et là, avec les. Là, l'idée, c'est pas de trouver un responsable, mais c'est que ces gens-là ne sont pas inclus dans le système de santé, sont rejetés parce que leur état de santé n'est pas assez grave. Et c'est souvent des gens qui souffrent de schizophrénie. On parle, bon, là, je pense, dans le cas des policiers,
c'est-à-dire que s'ils veulent pas rester, si c'est des patients réfractaires, que les autres appellent, si tu veux les forcer à rester, il faut qu'ils soient en danger pour eux-mêmes ou pour les autres.
Puis là, il y a des procédures, c'est compliqué. Voilà.
Pu finir, là.
Sauf que lui, le policier, je trouve ça intéressant que ça vienne d'un policier aussi.
Oui.
Parce que souvent, on a une image peut-être un peu faussée parce qu'on les voit dans des situations médiatiques où ils sont ils ont tiré sur quelqu'un, ils ont tiré sur un noir, par exemple, puis là, ça va faire les manchettes. T'sais, les policiers, souvent, le travail de terrain des policiers, ou quand il y a des manifs, t'sais, là, on entend parler des policiers.
Mais les policiers vivent dans notre malheur aussi.
Oui, c'est ça. Dire,
quand ça va, quand ça, t'appelles pas la police quand ça va bien.
C'est ça. Alors, je trouve ça intéressant que cette actualité-là vienne d'un policier qui dénonce, en fait, le peu de place que la santé mentale. Puis, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que c'est moi, je le vois autour de moi, parce que moi-même, j'ai découvert, puis là, on va rentrer un peu dans le human interest, mais je suis en train de décéder, fait qu'il va pas nous accuser de faire human interest cette semaine, parce que tu te rappelles de sa sortie. C'est que...
Monsieur Dérivage.
Oui, voilà. Bon. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'en ai parlé un peu dans les médias, puis je sais qu'il y en a qui...
On me l'a déjà dit. Arrêté?
Oui.
Quand?
Ça fait presque 2 ans.
Mon Dieu.
Le 1er août, ça va faire 2 ans.
OK.
Puis derrière ça, parce que je t'ai entendu parler quelques fois cette semaine de l'alcoolisme comme une maladie. Moi, je sais même pas si c'est ça. Sauf que je sais que derrière... mon rapport à l'alcool, il y avait de l'anxiété.
Bien sûr.
Bon, mais ça, je
l'ai
su.
L'alcool est la drogue favorite de tous les anxieux.
Bon, puis ça, je savais pas. Je savais pas ce qu'était l'anxiété avant d'arrêter de boire de l'alcool, puis de comprendre que c'était ça. Dans le fond, depuis des années, je m'auto-médicament, dans le fond.
C'est en plein ça.
Avec l'alcool.
Si les grosses compagnies pharmaceutiques avaient trouvé une molécule aussi efficace que l'alcool pour faire descendre l'anxiété, ils seraient encore pas mal plus riches qu'ils sont là.
Sauf qu'elle est efficace jusqu'à un certain point.
Parce qu'après ça,
elle devient un générateur d'anxiété.
Oui, parce que c'est un dépresseur aussi.
Voilà. Fait que ça aurait été intéressant. En fait, je sais pas comment on peut régler... Parce qu'évidemment, quand tu fais des chroniques comme ça, là, d'actualité... derrière ça, il y a toujours le désir que ça aille mieux, qu'on vit dans un monde meilleur. Oui. Et là, je pars de cette nouvelle-là, mais j'aimerais ça qu'éventuellement, sans, parce qu'évidemment, ça va coûter une fortune si on élargit la couverture de soins de santé puis qu'on inclut la santé mentale, mais ne serait-ce que des consultations chez un psychologue. On le voit dans le milieu du travail, la détresse psychologique des gens, mais que c'est mal vu de le dire parce qu'il faut être productif, parce qu'il faut...
La psychiatrie passe sur la carte d'assurance maladie, mais pas la psychologie.
C'est ça. Mais la psychiatrie, souvent, c'est des cas un petit peu plus lourds, ou ça va être des maladies physiologiques.
Ou ça prend une médication.
Oui, c'est ça. Ou ça va être physiologique. Des règlements chimiques dans le cerveau de certaines maladies, mais des troubles anxieux, c'est plus diffus. Là. On est dans la maladie mentale, on est dans les troubles de la maladie, mentale.
C'est dur, la vie, tout le monde devrait avoir des soins psychologiques.
Oui, et je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'on est deux gars, puis c'est quelque chose aussi, je pense, encore difficile à discuter entre gars, malheureusement, en 2019. Je pense que les filles, malheureusement, aussi le vivent plus, entre autres l'anxiété de performance. Mais ils sont capables d'en parler, ou je pense que... En fait, on a peut-être sociabilisé les filles pour être capables de dire ces choses-là.
Ce phénomène-là. Moi, je peux te dire, au refuge, par exemple, les petits gars qui arrivent puis qui sont dans le gros trouble, qui sont sur le bord de la mort, ils peuvent arriver 3-4 ensemble, ils diront pas un mot, rien. Il faut avoir des grosses antennes quand tu travailles au refuge pour deviner, aller chercher tout ça. Les femmes qui vont, par exemple, à la maison des femmes ou au Chaînon, ils arrivent, pleurent, racontent tout. Les intervenantes savent quoi faire. Et vraiment, je pense qu'on a été élevés comme ça.
Oui, tout à fait. Puis il va falloir que ça... Je pense qu'on gagnerait vraiment socialement à ce que ça change, qu'on soit moins capable de parler de tout ça. Parce que tu sais, en entreprise, il y a beaucoup, je pense, de détresse psychologique. Sur les médias sociaux, faut quand même pas, faut pas l'oublier que. Puis là, moi, j'avais déjà vu passer une étude l'an dernier qui disait que 25% des commentaires générés sur les médias sociaux sont par des personnes qui rentreraient dans la catégorie des personnes qui ont des troubles mentaux. Tu sais, les gens querellants, les gens violents verbalement. Je dis pas que la violence c'est un problème mental, mais sur les médias sociaux, ces gens-là qui sont souvent isolés, ça va être leur seul contact avec la.
Ou des fois qui expriment de la détresse. Aussi. Puis tu comprends que si elle l'écrit, si une personne écrit ça sur les médias sociaux, c'est peut-être qu'elle a personne à qui le dire. C'est très triste.
Oui. Sauf que c'est difficile parce qu'il y a tellement d'affaires sur les médias sociaux qui sont véhiculées. C'est difficile. Je pense que c'est le meilleur véhicule pour dire sa souffrance, mais des fois, c'est le seul que t'as, puis t'as pas le choix. Parce que les médias sociaux sont aussi un vecteur de problèmes de santé mentale, mais ça, on pourrait y revenir. En fait, mon deuxième sujet est encore dans la santé mentale, c'est les voyages par avion.
Ils sont un vecteur, et
là, j'ai vu ça ce matin passer, Air Canada. Ben, en fait, c'est 290 transporteurs de l'Association internationale du transport aérien qui font partie de l'AITA, qui, je crois, c'est le siège est à Montréal, d'ailleurs, à la Place Bonaventure, à Square Victoria. Donc, c'est l'Association des transporteurs aériens qui, dépose un appel à la Cour d'appel fédérale pour invalider plusieurs clauses de la nouvelle Charte des voyageurs. Tu te rappelles, l'an dernier, le ministre des Transports, Garneau, le gouvernement Justin Trudeau avait mis sur pied une Charte des voyageurs pour arrêter l'espèce de négligence des transporteurs aériens quand on perd nos bagages, quand on a des annulations de dernière minute. Et le déclencheur, ça avait été cet avion qui avait été cloué au sol en 2017 pendant 6 heures. Pas d'air climatisé, rien à manger. Et le gouvernement avait décidé de mettre sur pied une charte des voyageurs. Là-dessus, on parle des indemnisations de 1 000 $ quand le vol est retardé ou annulé à moins de 2 semaines de préavis. Des montants quand on nous dit il faut pas embarquer dans l'avion parce qu'on a surbooké, évidemment.
C'est pas juste ça, ils viennent te chercher dans ton siège en disant.
Oui, ça, mais ça, c'est des cas extrêmes. Oui, c'est ça. Mais ça, moi, j'ai jamais vécu comme ça, mais je connais plein de gens que déjà se sont fait dire vous pouvez plus partir parce que on a trop vendu de billets. Ne pas de rembourser les bagages qui sont endommagés ou qui sont même perdus. Et là, Air Canada, évidemment, va en appel de cette décision-là, ne veut pas se conformer à cette décision-là et dit que si le gouvernement va de l'avant, c'est les voyageurs qui vont payer, évidemment, parce qu'ils vont devoir augmenter le prix des billets. Puis,
c'est charmant, ils viennent d'absorber Transat en disant qu'ils ne monteront pas leur prix. Tu vois bien leur attitude.
Mais moi, ça me fait capoter comment on en est venu à être aussi... aussi permissif. Là, je le sais que c'est parce qu'on voyage, donc on book. Tu sais, on est avec les enfants, on a acheté des vacances dans un tout inclus, par exemple, et là, on veut partir, c'est nos deux semaines dans l'année. Mais on accepte des choses qu'on accepterait d'aucune autre compagnie, de se faire, c'est ça, annuler un billet à dernière minute, de perdre nos bagages. Puis moi, j'aimerais ça qu'on arrête, qu'on prenne moins l'avion. Puis tu sais, on parle d'environnement souvent, on va en parler comme troisième sujet aussi, mais prendre l'avion, on le sait, là, c'est démontré que ça laisse une trace environnementale énorme. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas le choix, mais je pense qu'on a plus le choix qu'on pense. Oui. En tant que consommateur, je pense que des fois, on pourrait, juste pendant un an ou deux, essayer de rester au Québec pour nos vacances. Je sais qu'il y en a qui veulent absolument aller à la mer. Je sais que ça fait gauche à Saint-Saëns de dire ça.
Non, on a de la mer, mais c'est obligé de la prendre l'été. C'est ça, frette l'hiver, c'est tout.
Mais je pense que ça serait bien. Tu sais, les meetings à Toronto, aller-retour, la même journée, là. Je sais que c'est souvent peut-être plus pratique que le faire avec les moyens de télécommunication. Mais je trouve qu'on laisse passer des choses des transporteurs aériens qui sont incroyables. Ça coûte une fortune voyager. On nous rajoute des mini-frais tout le temps, mais qui deviennent des plus gros frais sur les bagages qui avant étaient gratuits. Là, on paye tout le temps un surplus. Et là, maintenant, ces compagnies-là refusent de juste offrir un service à la clientèle minimal. Puis, oui. Puis moi, ça me fait capoter. Puis je trouve que comme client, on devrait des fois être un petit peu plus... c'est nous autres qui avons le gros bout du bâton. C'est nous autres qui achetons les billets.
Oui,
qui
de voyageons. Moins en moins, situation de presque monopole, mais...
Ben, oui. Donc, arrêtons de voyager pendant un petit
bout. Comment on a accepté ça, ces conditions de...
Je ne sais pas, Daniel.
Progressivement.
Oui.
Petit à petit.
La goutte chinoise.
Non, mais rappelle-toi les places d'avion il y a 30 ans. Tu pouvais mettre tes
Je sais pas, il y a 30 ans, je voyageais pas, moi. J'étais pas un artiste international qui chantait une tuera sur toutes les scènes du monde.
Non, mais Madonna, pendant qu'elle faisait ma première partie, elle m'encourageait à en parler. Et puis, mais tu regardes la place qu'on a maintenant. Moi, j'embarque dans un avion, j'ai les genoux derrière les oreilles.
Mais il faut que tu payes le supplément pour être...
pour avoir le droit de mettre mes genoux derrière les oreilles, je paye le supplément.
Pour avoir le droit de te
déplier. Oui.
Ouais. Dernier sujet rapidement que je trouvais aussi intéressant. Dans la magazine Science, c'est des scientifiques suisses qui ont établi... Parce que là, on parle souvent de transition énergétique. Là, les gens et les gouvernements sont comme non, on ne peut pas se débarrasser du pétrole comme ça. Ça va prendre 30, 40, 50 ans. En attendant, il y a des scientifiques qui ont calculé que si on voulait inverser le réchauffement climatique, le stopper, en fait, il faudrait planter 1000 milliards d'arbres. Pour vous donner une idée, à Montréal, il y a 400 000 arbres dans le domaine public. Donc, il faudrait planter cette quantité-là d'arbres, 400 000, 2 500 fois, un peu partout sur la planète. Ils ont utilisé des logiciels comme Google Earth, des logiciels des satellites comme Google Earth pour voir à quel endroit on pourrait planter tous ces arbres-là. Mais
je vois le chiffre de 1000 milliards.
1000 milliards, c'est ça. 1000 milliards d'arbres. Et ça, ça...
C'est une bonne après-midi, ça.
Ça permettrait de stopper le réchauffement climatique, en fait, de capter le CO2. Oui. Puis je vous en parle parce qu'il y a un livre ici qui s'appelle « La vie secrète des arbres ». C'est un livre de vulgarisation. Cet été, excellente lecture d'été, c'est de Peter Volobin. On sous-estime complètement la vie des arbres. C'est des êtres vivants qui communiquent ensemble, mais dans une autre façon.
Un bon exemple de ça?
De façon chimique. Oui, vas-y.
Parce que nous autres, on voit une forêt d'arbres.
Oui.
Alors, on s'imagine, les arbres sont quand même éloignés.
Oui.
Ils ne le sont pas. Ils communiquent ensemble complètement parce qu'on ne voit pas.
Mais les racines. Non, mais c'est incroyable. Ce livre-là, je sais, je suis pas le premier.
Il y a un dessin de comment c'est fait, les racines en dessous.
Je suis pas le premier à en parler. La vie secrète des arbres. Garochez-vous sur ce livre-là. Vous allez comprendre l'importance des arbres. Alors, vous allez planter des arbres autour de chez vous pour avoir des climatiseurs naturels. Et voilà.
C'est excellent.
Oui.
Climatiseur naturel étant une excellente idée.
Oui.
Je te remercie, mon Fred. Dans un instant, on va triper collant puis cap avec notre chum Jordan Dupuis qui vient nous parler de super-héros après la pause.